Louer et remercier soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir de nouveau être ici pour adorer. Nous savons en qui nous croyons. Nous savons qui nous a parlé. Et nous savons à qui nous parlons. Nous savons aussi où nous allons quand notre vie terrestre sera terminée. Et à cette occasion, parce que la pensée s'ajuste ici, je voudrais dire que nous sommes attristés d'un côté de ce que le frère Micha est décédé, mais d'un autre côté, il est auprès du Seigneur. Nous le savons, et lundi à 11h, nous aurons à Neuss l'ensevelissement, dans l'espérance que Dieu parle encore à plusieurs, qu'il puisse ajouter en appelant. Et c'est notre souhait, et c'est ainsi que c'était sûrement aussi la prière de notre frère. Vous avez sûrement vu que le frère Rousse n'est pas ici. On lui a prescrit un repos de 4 semaines et nous lui souhaitons ça réellement. Ce serait bien s'il aurait pu être ici, mais en pensée, il est sûrement parmi nous. Hier soir, nous avons écouté une parole merveilleuse. C'est une différence. Est-ce que c'est seulement une parole qu'on lit et qu'on dit plusieurs choses là-dessus, ou bien alors on lit une parole et on remarque que Dieu, par la parole, personnellement nous parle. C'est une très grande différence. Chacun peut lire une parole et dire quelque chose là-dessus, parler de cette parole. Mais rien ne s'est passé encore en faisant cela. Mais quand la parole de Dieu est lue et que l'Esprit de Dieu la vivifie, la rend vivante, et que vraiment, par cela, Dieu lui-même parle, alors c'est le moment où nous devons écouter ce que l'Esprit, par la parole, dit. Je voudrais aujourd'hui continuer, et le frère Schmitt a déjà lu une parole comme introduction qui s'ajuste exactement à cela, à ce sujet. Alors que j'étais assis là-bas, la pensée m'est venue: détends tes bras devant Dieu, parce que le temps aujourd'hui est comme il était autrefois. Le peuple a été convoqué et de la parole il est lu, et Dieu accorde la clarté et révèle ce qu'il a fixé en tant que sa volonté dans sa parole. Et je pense que à nous tous, cela devrait devenir conscient dans quel temps nous vivons réellement. Devenir conscient ce qui se passe maintenant. Conscient de ce qui se passe maintenant. Ce ne sont pas des hommes qui parlent sur la parole de Dieu, qui disent quelque chose sur la parole de Dieu. Cela peut avoir lieu partout. Ça peut être le cas partout. Mais parmi le peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même, personnellement, qui parle, qui nous parle par sa parole révélée. Il l'a vivifié, sa parole, par son Saint-Esprit, par son Esprit. Et ça, c'est une grande grâce, je pense, que nous devrions encore nous lever et invoquer Dieu pour qu'il puisse nous voir par sa grâce et nous parler. Père céleste, nous venons devant ta sainte face. Nous ne sommes pas Esdra et Néhémie. Nous ne sommes pas Pierre ou Paul. Mais tu es le même Dieu qui était et qui est et qui sera. Tu as rassemblé ton peuple pour dans ces jours parler avec nous, Seigneur des armées, Éternel des armées, Éternel Sébaoth. Nous te demandons ta présence, Seigneur. Fais que le ciel puisse descendre sur terre et que toi-même tu sois parmi nous. Bénis-nous. Que tout le reste soit mis dehors de nos cœurs et de nos pensées. Sorte et que ta parole nous soit adressée par toi-même et que dans notre cœur il y ait un accord avec un amen à chaque parole que nous entendons. Seigneur, accorde ta grâce comme autrefois. Que sous l'écoute de ta parole, il y ait la disposition, que nous soyons prêts à et qu'il y ait l'obéissance qui soit produite par ton esprit et par ta parole, et que chacun soit prêt, soit résolu, prenne ses résolutions à la mettre en pratique avec ta grâce, et qu'il puisse dire amen à chaque parole de ta bouche. Nous te demandons tout cela dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Je voudrais, dans Deutéronome chapitre 29, continuer à lire et voir ce que le Seigneur aura encore à nous dire. Hier, de Deutéronome 29, le premier verset, nous avons lu. Et au chapitre 29, en allemand c'était le chapitre 28, verset 69, en français c'est le chapitre 29, verset 1. Et je pense que tous ceux qui étaient ici, je crois qu'on avait lu jusqu'au verset 9, savent, et tous ceux qui n'étaient pas là devraient encore écouter cette prédication. Je suis de tout mon cœur convaincu que c'est un édifice spirituel maintenant qui a lieu, que Dieu maintenant est en train de prendre, de faire. Et il ne doit pas avoir d'interruption. J'aimerais lire à partir du verset 10. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Déjà ici, déjà, nous pourrions faire une pause. Le peuple se tenait pas devant les sacrificateurs, devant des hommes, pas devant des hommes. Le peuple se présentait aujourd'hui devant l'Éternel, leur Dieu. Et vous allez voir, du petit jusqu'au plus grand, du premier jusqu'au dernier, vous tous, vos chefs de tribu, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp. Depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tout le peuple était présent devant l'Éternel, rassemblé. Même ceux que Dieu a ajoutés, qui n'étaient même pas des Israélites, qui étaient des étrangers. Cela veut dire, même si des incroyants, dans ce temps, quand Dieu l'exécute, sont là, où Dieu parle, il va les ajouter à son église, à son assemblée, et va les soumettre à sa parole et à sa volonté. Vos chefs, vos tribus, vos anciens, vos officiers et tous, aujourd'hui, vous vous présentez aujourd'hui tous devant l'Éternel, votre Dieu. Personne était devant l'autre en tant que juge qui se serait assis quelque part. Personne s'était assis devant un chef de tribu qui donnait des ordres. Personne était au-dessus de l'autre. Tous. Du plus grand chef de tribu du juge jusqu'à celui qui porte l'eau et qui taille le bois. Tous étaient au même niveau, rassemblés devant le Seigneur, leur Dieu. Et tous ont reconnu qu'il n'y a qu'un seul qui peut avoir quelque chose à dire et qu'il y en a un seul qui est parmi eux chef et juge, l'Éternel, leur Dieu. À partir du verset 12. Afin que tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans sa communion contractée avec serment que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi. Parce qu'il t'établit aujourd'hui pour être son peuple et être lui-même ton Dieu. Au milieu de toi, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Hier, nous avons considéré que 40 ans étaient passés. L'alliance contractée depuis lors, depuis ce temps que nous sommes en train de considérer ici, au chapitre 29, avait eu lieu déjà il y a 40 ans. Maintenant, quelque chose de particulier devait avoir lieu. Le peuple d'Israël devait maintenant passer dans le pays de la promesse. Et ils étaient dans la région des Moabites, dans le pays de la Moabite, directement avant le passage par le Jourdain dans le pays de la promesse. Et c'est dès ce jour, à la fin d'une génération, que Dieu a rassemblé les siens. Et leur a dit, du premier jusqu'au dernier, du chef de tribu jusqu'à celui qui puise l'eau. Vous tous, vous êtes rassemblés, convoqués, rassemblés ici devant l'Éternel, votre Dieu. Pas devant un homme, mais tous devant Dieu le Seigneur. Mais maintenant, arrive le point. Dieu voulait faire entrer son peuple dans cette alliance et ici le mot dans sa communion contractée avec serment. Dieu avait juré, avait donné un serment et ce peuple devait maintenant être établi. Ce peuple devait entrer dans cette alliance contractée avec son Dieu. Mais bien aimé, c'est une grande différence. Est-ce que Dieu fait une alliance et que chacun ensuite fait ce qu'il veut avec cette alliance et avec son cœur en tout temps s'égare? Ou alors, est-ce que Dieu est en train maintenant de mettre en pratique cette alliance contractée originellement? Et la chose était en fait que le peuple était en train maintenant d'être par l'Éternel conduit dans le pays de la promesse. Et ce n'était pas seulement nécessaire, ou bien pas seulement impératif, un impératif que les paroles les ordonnances, la loi, soient écrites sur des tables de pierre. Mais c'était nécessaire que tous ceux avec qui Dieu avait fait une alliance soient, donc entrent dans sa communion. Et vous voyez où cela mène? Vous avez seulement besoin d'aller dans Hébreux. Cette alliance était d'entrer dans sa communion. Et ici, nous savons que c'est selon l'ordre de Melchisédek, que c'est par un serment que l'ordonnance selon Melchisédek a été établie. Dans Hébreux 7, c'est écrit à partir du verset 21, c'est par un serment aussi. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs, sans serment. Mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Là-bas, il y avait une alliance qui avait été contractée. Et Dieu avait juré, tu es sacrificateur éternellement, pour toujours, selon l'ordre du Melchisédek, verset 21 à la fin. Vous savez, Caron était le sacrificateur et peut-être que je devrais ici lire ces versets 11 et 12 des Hébreux chapitre 7. Ici, il est écrit, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Et non selon l'ordre d'Aaron. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Nous ne voulons pas ici continuer à entrer dans ces choses, mais nous savons que dans l'Ancien Testament, tout le sacerdoce était selon l'ordre d'Aaron. Comme Aaron a été établi par une onction et établi en tant que sacrificateur par l'onction, il a été établi. C'est ainsi que ses fils ont été aussi établis par une onction et ils ont ensuite exécuté leur sacerdoce. Dans le Nouveau Testament, un nouveau sacerdoce a eu lieu. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Autrefois, c'était Aaron qui était le souverain sacrificateur. Et il l'a ensuite établi tous les autres. Et ils ont été oints. Et ils étaient aussi sacrificateurs avec lui, en tant que leur fils, seulement les fils d'Aaron. Mais Jésus-Christ est le souverain sacrificateur, tel qu'il a été oint. Il faut que nous aussi, qui sommes nés de lui, nous soyons oints. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Ce qui s'est passé avec Aaron, ce qui a eu lieu avec lui, a eu lieu aussi avec tous ses fils qui étaient sacrificateurs. Ils étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Dans le Nouveau Testament, nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Le souverain sacrificateur du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Et il est, selon l'ordre de Melchisédek, Dieu le Seigneur, lui-même, manifesté en forme humaine, vint à la rencontre d'Abraham et avait du vin et du pain avec lui. Et ainsi fêter avec avec Abraham le souper. Et celui qui ne peut pas croire ça, il doit lire Hébreux chapitre 7. Et il est écrit que quand on interprète son nom, il est roi de Salem, roi de justice, roi de paix. Et qu'il y a quelqu'un qui pourrait être désigné roi de justice? Sûrement pas. C'est écrit dans le psaume: levez, ouvrez-vous, vos portails, car le roi d'honneur veut entrer. Et la question a été: qui est le roi de justice? Le Seigneur. Puissant en bataille, il est le roi d'honneur. Il s'agit de plus que nous puissions en ce moment comprendre. Ici, le peuple d'Israël devait être établi dans les choses pour lesquelles ils avaient été déterminés. Jusqu'à maintenant, ils marchaient dans le désert ici et là. Mais maintenant, le temps était arrivé où ils devaient être établis. Et ici, nous aussi nous attendons, n'est-ce pas, la manifestation des fils et filles de Dieu. Et ici, il est écrit, pour que tu puisses entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans sa communion contractée avec serment. Pas seulement écouter ces choses, parler de ces choses. Mais maintenant, entrer dans sa communion et que cette alliance que Dieu a faite avec toi, a contractée avec toi, de ton côté, tu puisses la confirmer et aussi la contracter avec lui et que tu puisses te soumettre au livre de l'alliance. Il continue encore ici. Au verset 13, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, et parce qu'il veut être lui-même ton Dieu, et parce qu'il veut lui-même être ton Dieu, nous pourrions aller dans Exode, chapitre 12, et il est écrit que l'assemblée d'Israël est sortie de l'Égypte, le sang fut immolé, le sang s'est répandu, a été répandu, et l'Exode a eu lieu, et des signes et des prodiges ont eu lieu, mais d'être établi, cela a eu lieu 40 ans plus tard. Ici au chapitre 29 de Deutéronome. C'est seulement à partir de ce moment-là où le peuple d'Israël était en train maintenant d'entrer dans le pays de la promesse, allait traverser le Jourdain. Remarquons-nous cela, s'il vous plaît, car c'est très important. Il est écrit, parce qu'il t'établit aujourd'hui pour être son peuple, pas seulement être racheté, mais en tant que racheté, être placé dans la position de fils et fille de Dieu. Pas seulement être racheté, mais en tant que racheté. Et nous devons lire la Bible, la parole de Dieu, avec attention, pour laisser Dieu nous parler. Il ne s'agissait pas maintenant qu'il devienne son peuple, mais en tant que son peuple, il devait être établi. Le Seigneur veut aujourd'hui, maintenant, nous établir. Il ne s'agit pas seulement de dire que Dieu a établi dans l'Église, c'est vrai. Au commencement, Dieu a établi. À la fin, il faut que Dieu aussi établisse dans l'Église. C'est pas possible autrement. est là où Dieu ne peut pas établir. Là, il n'y a même pas d'édifice possible pour de l'église, d'édification, de perfectionnement. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais Dieu, par cela, nous n'avons pas pu rendre un service à Dieu. Au contraire, nous lui sommes seulement un obstacle. Là où Dieu a des intentions, veut faire quelque chose, il va d'abord mettre en pratique les ordres qu'il a donnés. Les ordonnances, Dieu les avait déjà données il y a 40 ans auparavant, en ce qui concerne Israël. Mais le peuple, jusqu'à ce jour, dans Deutéronome 29, n'avait pas encore reconnu, compris les intentions de Dieu. Leurs yeux étaient fermés et leurs oreilles étaient fermées. On a lu cela au verset 3 et 4. Et malgré tout, de Deutéronome 29, malgré tout, ils étaient le peuple racheté, sorti de l'Égypte. Mais, ils ne pouvaient pas encore recevoir un devoir, une responsabilité. Ils ne pouvaient pas encore exécuter et mettre la parole de Dieu en pratique et faire les objectifs pour lesquels ils étaient sortis d'Égypte. À quoi est-ce que ça leur a servi d'être sortis de l'Égypte? Et que pendant 40 ans, leurs souliers étaient restés intacts, leurs vêtements, et que Dieu les nourrissait. S'ils se sont égarés dans les déserts et tournaient en rond, et que pendant ce temps, ils ont même murmuré tout, ils se plaignaient, ils faisaient que se plaindre. À quoi est-ce que un peuple qui murmure sert à Dieu? Un peuple qui s'égare sert à Dieu? Qui n'a pas encore donné et pris encore compris la direction qu'il leur montre par la colonne de fer suivre. Ici, un nouveau jour s'était levé, un nouveau temps, une nouvelle époque. De s'égarer, le temps était arrivé, c'était fini, c'était terminé. Le pays, la promesse maintenant était devant eux. Il fallait traverser le Jourdain. Et maintenant, Dieu voulait faire entrer son peuple dans sa communion contractée par serment. Cette alliance était une communion avec lui, avec son peuple, entre lui et son peuple. Quand je dis serment, entre son peuple, avec le livre de l'alliance, le mot serment, vous savez ce que ça veut dire? Il ne s'agissait plus maintenant de faire ce qu'on veut, de regarder. Mais ce qui a été dit dans le livre de l'alliance a été dit. Et cela était vrai et devait être mis en pratique. Et ce peuple était prêt à se soumettre à l'alliance contractée. Parce que aujourd'hui, il veut établir en tant que son peuple et être lui-même ton Dieu comme il te l'a promis et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. En allemand, comme il te l'a promis. Dieu pour tout a un temps bien précis. Et il n'y a aucun homme qui pourrait influencer Dieu dans ce qu'il fait, dans son œuvre. Mais quand l'heure de Dieu frappe pour quelque chose de bien précis et que le jour est venu que le Seigneur a fait pour quelque chose, alors nous devons prêter l'oreille à ces choses. Et nous devons de tout notre cœur avoir un amen, accepter ces choses et dire, Seigneur, c'est ainsi, que ainsi soit-il. Je veux apporter ma contribution à ces choses. Je veux de mon côté aussi contracter cette alliance. Vous savez comment c'était du temps parmi les critiques? Quand les sacrificateurs exécutaient leur sacerdoce, leur service. Et qu'il y avait, quelque chose qui se passait. C'était quelque chose d'important, mais pas si important que quand dans un temps, quand Dieu faisait parmi son peuple l'histoire du salut. Au moment Dieu a envoyé des prophètes pour révéler sa volonté nouvellement. Celui qui n'écoutait pas, il perdait le but. C'était plus important quand Dieu envoyait un prophète. Si quelqu'un, par exemple, n'écoutait pas ce que le sacrificateur enseignait, bon, c'était pas Dieu, c'est vrai, lui en voulait, parce qu'il n'a pas bien écouté le sacrificateur dans son service. Mais la chose la plus importante, la responsabilité qui est liée avec la désobéissance de la prédication d'un prophète envoyé de Dieu, que nous en soyons conscients. Vous savez, partout dans les siècles passés, il a été prêché, des hommes sont venus à la foi. Mais maintenant, à la fin des jours, Dieu a révélé sa parole et l'a élevé. Il nous a donné une vue prophétique, la vue d'un aigle dans les choses divines. Et ce qui ne pouvait pas être vu auparavant, cela nous semble aujourd'hui clair dans la lumière de la révélation divine de sa parole. Je le répète, quand le sacrificateur prêchait et exécutait leur service et que les scribes et pharisiens aussi apportaient leurs interprétations, bon, celui qui n'écoutait pas n'a peut-être pas manqué de beaucoup de choses. Mais au moment où Jean-Baptiste apparaissait, la chose était obligatoire pour tous ceux qui prêtaient l'oreille. C'était une responsabilité de mettre ces choses en pratique pour tous ceux qui l'écoutent. On ne peut pas dire, bon, ça c'est un homme qui a parlé, bon, j'ai pas besoin d'écouter. Non. Non, c'était Dieu qui parlait par cet homme. À partir du moment où c'était un prophète. Et au moment là, il y avait une responsabilité avec cette parole de Dieu adressée au peuple de Dieu. Ici, dans Hébreux 7, mes yeux tombent encore au verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. La parole du serment établit un Fils qui est en même temps sacrificateur, mais pas seulement souverain sacrificateur, mais il est aussi Fils. Par la parole du serment. Et cela est il est parfait éternellement. Perfect, il est parfait selon le modèle du souverain sacrificateur de Jésus-Christ qui, en tant que Fils de Dieu, selon l'esprit de puissance et de sainteté. Romains 1, verset 4. Et si lui, il est déjà parfait pour l'éternité, alors tous ceux qui lui obéissent et qui l'a racheté et qui lui obéissent et qui l'a établi comme sacrificateur, comme lui, car selon la loi de Dieu, tout produit selon son espèce. Donc, ils sont aussi établis selon son espèce. Autrefois, selon l'espèce d'Aaron, les fils d'Aaron. Mais maintenant, selon l'espèce de Jésus-Christ, établi en tant que sacrificateur. N'était pas écrit dans le psaume 70, peut-être le verset 4 ou 5. Tu es sacrificateur, éternellement, pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, il s'agit pour moi de ce mot-là, le serment. Parce que Dieu ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Et avec cela, il a voulu dire que mes décisions sont immuables. Ce que j'ai dit, cela reste valable. Il s'est porté garant. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? Est-ce que là, notre foi ne peut pas être comme une ancre et nous recevons par cela un puissant encouragement sans que personne dans le moindre des choses pourrait changer quelque chose? Il peut essayer. Mais rien va se passer par cela. Cela reste valable. Notre Seigneur est le garant de la nouvelle alliance. Il l'a pris sur lui la garantie. Il nous assure la garantie. Et celui qui est endetté, notre garant est capable de payer chaque faute. Pas seulement qu'il est capable. Il a déjà fait. Il a déjà payé le prix pour toi et pour moi. Il s'est porté garant. Et dans le jour du jubilé, l'année du jubilé, la prédication, la proclamation a été faite que tous ceux qui sont endettés étaient délivrés. Mais écoutez, ce qui maintenant à ces gens-là, et je vous demande d'accepter cela en tant qu'un enseignement qui vient du Seigneur. D'être établi, l'établissement du peuple de Dieu, avant que les promesses trouvent leur accomplissement et que le peuple puisse traverser le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse. Il fallait qu'il soit établi d'abord. Mais c'était lié à des obligations. Au verset 15. Mais c'est avec ceux qui sont ici parmi vous présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici, qui sont pas encore ici parmi nous en ce jour, qui sont pas encore. Le contrat que Dieu a fait, l'alliance qu'il a contractée dans sa communion, dans laquelle il a établi son peuple, n'était pas seulement pour ceux qui étaient à l'époque présents devant l'Éternel dans l'adoration, mais aussi contracté pour tous ceux qu'il ajoutera encore, qu'il appellera encore et qu'il ajoutera encore. Loué soit Dieu qui n'a pas un programme fixé dans un certain temps, mais qui a fait un programme éternel pour que qui couvre tout. Tout le temps jusqu'à l'enlèvement. Quand nous pensons, voilà ce que Dieu a fait autrefois, qu'est-ce que cela nous sert aujourd'hui? Ce qui s'est passé à Golgotha, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui de ces choses? Ce que Dieu a fait autrefois et ce qu'il a fait à Golgotha, c'est fait pour toujours, pour tous les âges dans le futur, et c'est valable pour tous ceux qui, dans les âges qui vont suivre, lui appartiendront. Mais justement, ces gens avec lesquels Dieu a fait cette alliance autrefois, contracte cette alliance, et ceux qu'il établit et qui fait entrer dans son alliance et qui place sous ce serment, ils ont particulièrement des choses à obéir. Ils ont une responsabilité. Je le lis dans le même chapitre, la responsabilité que ont ceux qui ont été établis. À partir du verset 18. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Pour la première fois dans ma vie, j'ai pris le dictionnaire pour ici lire la signification de cette parole parce que je voulais exactement savoir qu'est-ce que c'est que l'absinthe. C'est une plante qui n'est pas connue de tous comme ça dans un jardin. Et il est écrit dans le lexicon que c'est un poison. C'est un poison. L'absinthe, c'est un poison. Que Dieu a fait sortir d'Égypte, avec qui il a contracté une alliance, qui ont marché avec lui pendant une époque de 40 ans et qui étaient arrivés jusqu'à ce point après 40 ans, où maintenant il s'agit de traverser le Jourdain et entrer dans le pays de la promesse, c'est à eux là qu'il donne des ordres bien précis. Des instructions, et ces instructions doivent être mises en pratique, doivent être observées. Que personne, après avoir entendu, qu'il n'y ait parmi vous ni homme ni femme, qu'il n'y ait aucune racine qui produise du poison. Ici, c'est pas seulement dit, c'est ma racine. Il y a trois mots, l'un après l'autre, qu'un homme utilise seulement quand il veut montrer à celui à qui il parle l'importance de ce qu'il dit ici. Il utilise trois mots. Qu'il n'y ait pas point parmi vous pas de racine. Avez-vous tous lu? Ou bien je suis le seul qui lit? C'est ici que c'est écrit dans la parole de Dieu. Que parmi vous, il n'y ait pas de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Et qui produisent comme fruit de l'absinthe. De l'absinthe. Vous savez ce que cela signifie? Racine? Paul et eux. Luther ici dit, il utilise un mot, donc poison. Paul a exhorté, et dans Hébreux, je crois, chapitre 12, verset 15, il dit, ça devrait être, Hébreux 12, verset 15, il donne ici cet ordre, cette instruction, comme ici dans Éphésiens 4, verset 32 aussi, ici, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Une parole d'exhortation, d'avertissement. Qui veut écouter cette parole aujourd'hui? Qui veut la mettre en pratique? Qui veut prêter l'oreille? Seulement ceux avec qui Dieu a contracté cette alliance. A renouvelé cette alliance contractée. Et les établit. Et comment est-ce qu'ils entrent dans sa communion contractée par serment, avec serment. Des gens qui ont reconnu la responsabilité qu'ils ont parce que Dieu leur a parlé et leur a révélé sa parole. J'aimerais ici ne pas aller en avance, mais nous avons une prédication que nous avons traduite avec le titre « Le respect ». Et nous vivons réellement dans un temps où il n'y a plus de respect. Et ça, c'est dans chaque domaine, jusqu'à dans les petites relations. Je ne veux pas ici rentrer dans les détails, parce que la parole est ici, pour cette parole sera, nous la prévoyons pour cet après-midi. Que parmi vous, il n'y ait pas de racine d'amertume, ou bien d'absinthe, en tant que fruit. Racine qui produit un poison, et de l'absinthe. Seulement, donc personne qui écoute cette parole du contrat fait par serment. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie pas dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai l'endurcissement de mon cœur. » Il lit maintenant Deutéronome 29, verset 19. « Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Personne qui marche dans l'endurcissement de son cœur, les choses seront bien pour lui. Personne. Même si ici écrit le mot endurcissement. Endurcissement du cœur. Pas seulement les penchants, mais l'endurcissement. Là, on peut aller dans Hébreux, et je suis vraiment reconnaissant de nouveau de ce que cela a été écrit ici. Que l'épître aux Hébreux soit écrit, je suis reconnaissant. Ici, au chapitre 3, au verset 7, il est écrit des Hébreux, et aussi dans les versets qui vont suivre deux fois. Verset 7, c'est pourquoi aujourd'hui, je lis à partir du verset 7. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, laissez-moi ici, avant de continuer à lire, repartir, et c'est-à-dire, dans Deutéronome, chapitre 29, où là où il est écrit, jusqu'à aujourd'hui, vous ne m'avez pas encore connu. Verset 4. Deutéronome 29, verset 4. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Et ensuite, au verset 10, vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, pas demain, pas après-demain, mais aujourd'hui, tous, vous êtes tous devant l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce que c'était ce aujourd'hui? Quel jour c'était dans lequel ce mot aujourd'hui est utilisé? Dans quel contexte? C'était un jour particulier de convocation, de rassemblement dans l'histoire du salut. Un jour que Dieu avait fait pour obliger son peuple définitivement à l'observation de sa parole. Pour exécuter ses promesses, c'était un jour que je n'aurais fait, comme il est écrit, après avoir fait sa volonté, nous obtiendrons ce qu'il a promis. Et ici aussi, c'est la même chose. Ici, dans Hébreux 3, au verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi cette parole du Saint-Esprit est valable pour vous. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'entrecisez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Et il est écrit la dernière partie, ici, du verset 10. Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils n'ont pas connu mes voix. Maintenant, le verset 12. Prenez garde, frère, que personne de vous n'ait un cœur mauvais d'incrédulité. L'incrédulité est toujours liée à un cœur mauvais, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, tant que l'aujourd'hui est valable, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le même mot écrit dans Deutéronome 29, verset 19, le mot endurcisse. C'est encore valable aujourd'hui. Le aujourd'hui est lié à la parole, à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, le aujourd'hui forme le temps dans lequel Dieu lui-même parle. Le aujourd'hui n'est pas le temps dans lequel des sacrificateurs ou bien des scribes ont interprété la parole de Dieu, mais le aujourd'hui biblique est toujours lié au temps dans lequel c'est Dieu qui parle. C'est toujours lié à la voix de Dieu. Et si nous chantons, ceci est le jour, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Alors nous savons ce qui est lié à cela. Pas un jour des qui appartient aux organisations ou bien aux dénominations, mais le jour que le Seigneur a préparé pour son peuple. Un aujourd'hui, une parole de Dieu est liée au aujourd'hui. Et avec cette parole, l'exhortation, l'avertissement est lié. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Croyez-moi, on ne voudrait pas le dire. Mais ceux qui dans les siècles passés vivaient et qui ne savaient pas la moitié de ce que nous savons et qui croyaient pas la moitié de ce que nous croyons ont 99% de plus de chances d'être dans la gloire de Dieu que nous qui avons écouté la parole de Dieu et qui la méprisent et pensons que nous sommes dans nos droits. Vous allez voir que en ce jour-là, cela sera révélé, dévoilé. Il y a encore plus. Aujourd'hui, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il lit Hébreux 3, verset 15. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent. Pendant 40 ans, Dieu a eu la patience et dans son amour, il l'a nourri son peuple malgré leurs murmures, leurs plaintes. Il les a nourris, il les a abreuvés. Et Paul, ici, écrit au verset 16, Hébreux 3, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, ce sont ceux qui n'ont pas cru, qui avaient un cœur mauvais, qui étaient incrédules. Ils se sont même révoltés. Mes bien frères et sœurs, la parole de Dieu, on doit la croire. Ça ne suffit pas seulement de l'écouter. Il faut qu'elle soit respectée et que par notre conduite, il ne soit pas révélé qu'en fait, nous nous révoltons. Si nous ne mettons pas en pratique ces choses, il faut qu'elle soit crue. Et si on la croit, on la mettra en pratique. Et ce point qui nous est donné pour notre vie personnelle est à observer de chacun de nous et à prendre au sérieux. Que parmi vous, il n'y ait personne dans le cœur duquel il y ait des racines d'amertume qui produisent du poison, de l'absinthe. Bien qui produisent du trouble et que plusieurs soient infectés. Nous avons lu. Quel trouble peut être produit si cette plante empoisonnait seulement le champ duquel elle a poussé? Ce ne serait pas grave. Mais nous avons lu que par cette racine d'amertume, plusieurs soient affectés et que ça produise du trouble. Le temps est arrivé où chacun doit faire attention à lui-même et aux autres et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit nous a établi comme pour veiller. Et chacun doit aussi prendre cette exhortation, cet avertissement au sérieux. Des gens qui pendant 40 ans avaient vu, n'est-ce pas, l'œuvre de Dieu, sont maintenant entrer dans sa communion contractée par ses membres, sont établis en tant que son peuple. Et c'est à eux-là que cette exhortation est donnée. Que dans aucun des cœurs de ces gens-là qui sont entrés dans sa communion, il y ait une racine d'amertume qui se forment, qui se produisent. et qui apporte du trouble pour détruire. Veillons à cela. Si Dieu a choisi ce temps pour parler, pour aller de l'avant avec son église, avec son assemblée, alors il y a des instructions, des règles, des objets, des paroles que nous avons à observer et à obéir pour que dès maintenant les troubles soient ôtés et que l'église soit conservée de tous ces troubles et de toutes ces choses qui infectent, qui empoisonnent. J'espère que vous comprenez que Dieu parle dans notre cœur. Sinon, nous nous égarons dans notre cœur, c'est toujours dans le cœur. Et c'est du cœur que les troubles viennent, que la racine d'amertume est produite. J'espère que le Saint-Esprit a révélé maintenant déjà à chacun qu'en lisant cette écriture, il ne s'agit pas de ce qui s'est passé autrefois dans Deutéronome 29. N'est-il pas écrit que toutes choses qui sont passées avec Israël sont arrivées pour nous servir d'exemple? Et elles ont été même écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ce qui s'est passé autrefois se répète dans nos jours. Il y en a, comme il est écrit ici, qui veulent détourner cette parole et disent, mais moi je sers le Seigneur, vous voulez que je vous le lise? Et se glorifie dans son cœur et dit, ah, j'aurai la paix quand même je suivrai l'endurcissement de mon cœur, les penchants de mon cœur. Deutéronome 29, verset 19. Que personne se glorifie de cette manière dans son cœur. Sous l'écoute d'une telle parole sérieuse, que personne se glorifie dans son cœur et pense, moi je me glorifie et me dis dans son cœur, se glorifie et dit, oh, moi avec moi tout est en ordre. C'est pas possible. Je veux dire, les choses, il veut dire, c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu a parlé et il veut que chacun prenne garde. Et personne ne peut dire, moi, j'ai pas besoin de prendre garde à ces choses. Est-ce que nous n'avons pas plus ou moins constaté et entendu quel trouble peuvent être produits quand de telles choses sortent de l'amertume des cœurs? Est-ce que c'est pas d'une grande importance que le cœur soit labouré, retourné, défriché et que tout ce qui peut être encore dans le cœur avec la racine soit déraciné? Et que ce que le prophète Jérémie a dit, n'est-ce pas, dans Jérémie 4, verset 3 à 4, défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Jérémie 4, verset 3 à 4. Dieu aura une église qui n'a pas seulement rachetée, qui n'a pas seulement sauvée et qui l'a conduit, avec laquelle il s'est donné tant d'efforts. Mais une église qu'il peut établir, qu'il peut utiliser, car il s'agit du ministère de l'église. Éphésiens 4, verset 12. Avec laquelle il peut achever son œuvre. Son plan, n'avons-nous pas lu hier que le peuple d'Israël est revenu, mais il devait travailler dans le pays de la promesse. Dieu a une église, mais dans cette église, il a établi. Et cet ordre divin doit de nouveau être restauré. Ensuite, il est dit, Deutéronome 29, verset 20, « L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Un tel homme, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. » Verset 20, « Non, mais la colère de jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. » Toute la malédiction écrite dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera même son nom de dessous les cieux. Un homme qui s'élève au-dessus de ce que Dieu dit et exige ne peut pas être ne peut pas rester béni. Même si il était béni, il ne peut pas rester béni. Au verset 24, il est écrit, toutes les nations diront, poseront la question, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Deutéronome 29, verset 24, verset 25 maintenant, et l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. C'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Verset 25. L'alliance contractée a comme contenu la bénédiction. Celui qui la méprise, qui l'abandonne, en ne mettant pas en pratique, comme c'est écrit au verset 9, les paroles de l'alliance, sur lui demeure la colère de Dieu. Et nous ne voulons pas être, et nous voulons pas tomber dans la colère de Dieu. Nous voulons être bénis de toute bénédiction que Dieu a promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament à Abraham, Isaac et Jacob. Tous les prophètes et tous les apôtres, nous voulons être en tant que son peuple de l'Alliance, en tant qu'un saint sacerdoce, en tant que fils et fille de Dieu, une race élue. Nous voulons être établis par notre Dieu pour le ministère de l'Église, comme Dieu veut l'avoir. Et c'est une alliance contractée dans sa communion, comme on a lu. Christ, en tant que souverain sacrificateur, il a été placé sous un serment. Dieu a juré et a dit, tu es sacrificateur pour toujours, en allemand, éternellement, selon l'ordre de Melchisédek. Nous, un sacerdoce, selon l'ordre de Jésus-Christ. Christ veut dire le oint. Si nous avons été oint, comme lui, il a été oint, alors nous sommes des chrétiens. Chrétien veut dire réellement oint. Christ était le oint. Jésus est son nom. Mais Christ, c'est le oint. Jésus le oint. Jésus-Christ. Donc, si nous sommes vraiment de vrais chrétiens, des véritables chrétiens, à l'image de notre Seigneur, alors nous devons être des oints par Dieu lui-même. Dieu doit habiter lui-même en nous. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Et que nous devons avoir servi les gens et utiliser notre temps qui, à la fin, n'atteindront pas le but. Ce serait la chose la plus grave qui existerait pour moi, avoir prêché pendant des années à des gens qui n'atteignent pas le but. Alors que j'avais même pas 18 ans, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, accorde-moi ta grâce de prêcher ta parole de la manière que moi-même, avec tout ce à qui je parle, nous pourrons subsister devant toi en ce jour. Et ça, c'est mon intention. Je veux subsister, pas seulement moi, mais avec tous ceux qui ont écouté la parole de ma bouche. Je veux pouvoir subsister. Et la question est à poser, comment est-ce que nous pouvons subsister devant Dieu? Tel que nous sommes. Dieu nous a conduits. Dieu a béni. L'un peut dire pendant 10 ans, pendant 30 ans, pendant 20 ans, pendant 40 ans. Le peuple d'Israël a pu dire la même chose pendant 40 ans. Ils ont été bénis, mais accomplissement à la fin. Avant que ces promesses s'accomplissent et qu'ils entrent et qu'ils traversent le Jourdain et qu'ils entrent en possession et qu'ils puissent entrer en possession de Canaan, Dieu a rassemblé son peuple, l'a fait convoquer. Et c'était comme une nouvelle alliance faite. Il a renouvelé l'alliance. Ce n'était pas seulement une alliance contractée et que le peuple ensuite est parti, mais une alliance contractée. Et le peuple a été pris et a traversé le Jourdain et est entré en possession de ce que Dieu avait promis. C'était devenu une réalité. C'était pas une nouvelle alliance, c'était un renouvellement de l'alliance faite il y a 40 ans. C'était de leur rappeler l'alliance faite, ce que Dieu avait fait autrefois, à la fin maintenant de leur marche. Mais bien aimé, il n'y a pas d'autre évangile, il n'y a pas d'autre message, il n'y a pas d'autre alliance en tant que en dehors de l'alliance que Dieu a contractée avec nous en Jésus-Christ, son Fils engendré par lui. Ça, c'est une alliance éternelle. Mais cette alliance contractée doit, à la fin des jours, nouvellement, doit nous être rappelée dans nos mémoires. Rassemble-moi, mon peuple, psaume 50, verset 5. Ce peuple avec lequel, mes fidèles avec lesquels j'ai fait l'alliance, qu'on fait l'alliance avec moi. Mes bien frères et sœurs, je vous dis ça, c'est une directe continuité sous la conduite directe du Saint-Esprit de l'œuvre de Dieu. Que Dieu, par sa grâce, nous laisse recevoir. Aujourd'hui, dans cette époque dans laquelle Dieu parle, n'endurcissons pas, ne fermons pas nos cœurs. Ne pensez pas à vous-même. Ah, j'aurai la paix. Je peux marcher dans le penchant. Je loue le Seigneur dans mon cœur. Je peux marcher. Il y en a beaucoup qui le pensent, qui pensent en eux-mêmes, qui se glorifient, qui disent, ah, les choses auront bien pour moi. Je suis en relation avec Dieu. Je vis avec lui. Je suis en communion avec lui. Je ne vais pas douter à ça. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de ce que toi tu penses, de ce que toi tu dis. Aujourd'hui, Dieu exige son troupeau et revendique son troupeau racheté par le sang avec lequel il a fait une alliance sur la croix à Golgotha. Il a contracté une alliance sur la croix à Golgotha. Il exige que ce peuple-là, dans l'obéissance et dans la foi, se tienne à sa disposition et dans cette alliance contractée-là, soit pour son Dieu avec tout son amen et dit Seigneur. Je me place sous la même parole, sous le même serment, sous lequel toi, tu as été placé alors qu'il a été dit, tu es souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Celui qui est que cela ne serait pas quelque chose de merveilleux. Si Dieu pouvait nous oindre de cette manière, selon l'espèce de Jésus-Christ, lui-même qui a pu dire, mais voici, pour faire ta volonté, nous savons qu'Aaron, Aaron avait de l'huile. Qu'il a renversé sur ses fils et il a oint. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alors qu'il a été baptisé au Jourdain, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu. Il a été oint et l'Esprit est resté sur lui. Que fut l'annonce le jour de la Pentecôte? Cette promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tout ce que le Seigneur appellera en aussi grand nombre. Je voudrais une onction selon l'espèce du souverain sacrificateur, la même espèce d'onction de Jésus-Christ, mon Seigneur. Tel que le sacrificateur dans l'ancienne alliance avait le droit d'être oint de la même espèce qu'Aaron. De la même manière qu'Aaron, le souverain sacrificateur, c'est ainsi que nous, dans le Nouveau Testament, en tant que peuple de Dieu, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, nous avons le droit d'être oint de la même espèce que notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car pour finir, nous sommes fils et filles de Dieu. Nous le sommes devenus. Êtes-vous heureux de votre position? Ça, c'est la sainte parole de Dieu. Et je suis heureux de ce que Dieu a contracté cette alliance et la renouvelle et la place sur le chandelier. Et c'est le bonheur de son peuple. Et si, même pendant 40 ans, nous nous sommes égarés, à la fin, cela aura servi à quelque chose. Si nous prêtons l'oreille à la voix de l'Éternel et nous le mettons en pratique, sa volonté, nous faisons sa volonté et nous voyons ensuite l'accomplissement de ce qu'il a promis. Comme c'est écrit, après avoir fait sa volonté, nous obtenons ce qu'il a promis. Hébreux 10, verset 36. Ensuite, maintenant, le verset 29 de Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Déterminées, donc, sont à nos enfants pour toujours, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Déjà autrefois, Moïse savait que c'était pas que tout le destin de salut de notre Dieu, de son Dieu, n'était pas encore révélé. Tout. Il dit les choses encore cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Mais les choses qui nous ont été révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. En allemand, pour toute éternité, sont déterminés, sont à nous. Ça, c'est quelque chose de merveilleux et de glorieux. Et aussi cette remarque encore, ce qui était caché du temps de Moïse est déjà dans nos jours révélé. Ça nous appartient. Et à nos enfants et aux petits-enfants, tout ce que le Seigneur ajoutera, appellera. Aujourd'hui, vous êtes tous présentés aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Il cite le verset 10. Pas devant le prédicateur qui apporte la parole, mais devant l'Éternel, votre Dieu, qui nous parle. Avons-nous compris cela? Tel que les hommes de Dieu, par lesquels le Seigneur avait parlé, se tenaient devant Dieu et recevaient sa parole et ce qu'il avait à dire à son peuple. C'est ainsi que tous ceux qui écoutent la parole de Dieu sont placés sous sa parole, dans sa présence, sont soumis à sa parole. Et c'est ainsi que la communion, la relation avec Dieu est rétablie. C'est une alliance contractée dans sa communion. Et c'est ainsi que le Seigneur bénira et a déjà béni et fera encore de plus grandes choses pour sa gloire. Son alliance n'est pas annulée et sa grâce, n'est-ce pas, reste valable. Ça, c'est écrit dans Ésaïe 54, verset 10. Mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Même si des troubles se passent dans nos vies, des tribulations, des épreuves, Dieu a fait une alliance qui ensuite il a confirmée après 40 ans. Et il l'a fait entrer son pays dans le pays de Canaan, son peuple, qui lui obéissait. Et pensez-vous que là, il n'y avait qu'un seul qui aurait pu se glorifier? Un seul. Dieu est allé devant eux et a réglé le compte des adversaires et a donné à son peuple la victoire. C'est la même chose encore aujourd'hui. C'est l'Éternel qui combattra pour nous. Que il puisse nous ouvrir l'intelligence pour les Écritures, oindre nos cœurs, pour que nous puissions entendre, voir, reconnaître et ne pas nous égarer. Il le fera. Ceci est le jour. Ceci est le temps. Loué et exalté soit son Saint-Nom. Amen. Nous voulons nous lever pour adorer. Peut-être que nous chantons ce cœur tel que je suis sans rien de moi. Glorieux Golgotha. Ceci est le jour. Ceci est le jour, ceci est le jour que le Seigneur a fait. Permettez à la parole et l'esprit d'agir et de produire ces choses en nous. Car ceci est le jour que le Seigneur a fait. Père céleste, de tout mon cœur, je te remercie pour ces jours particuliers que dans ces siècles, tu as toujours de nouveau fait. C'était ton aujourd'hui. Ton temps était arrivé pour faire quelque chose de particulier. Et ainsi tu as fait ce jour. Tu as confirmé ta parole. Tu as béni ton peuple. Et tu t'es manifesté glorieusement. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour la conduite de ton Saint-Esprit. Seigneur, notre Dieu, devant mes yeux spirituels, je vois le déroulement de l'histoire du salut. Seigneur, ceci est le jour que tu as fait. Renouvelle ton alliance. Fais-nous entrer dans cette obligation de l'observation de ta parole, du livre de l'Alliance, que nous puissions garder toutes les paroles de l'Alliance, les repasser dans nos cœurs, les recevoir dans nos cœurs et les mettre en pratique. Sanctifie-nous ainsi dans ta vérité. Ta parole est la vérité et confirme-la par des, en accompagnant de signes, produits et miracles. Nous t'adorons et nous te remercions de la profondeur de nos cœurs. Bénis-nous et avec nous tous ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui. Oh Seigneur, dans toutes les villes, dans tous les pays, partout, tu connais les tiens, tu connais ceux qui t'appartiennent et ceux qui t'appartiennent te connaissent. Alléluia. Loué et glorifié soit ton Saint-Nom. Seigneur, tu es souverain, tu es devenu souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Avec ton Saint-Sang, tu es entré dans le sanctuaire céleste. Le voile dans le temple s'est déchiré et le chemin est libre. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Seigneur, et ensuite tu as répandu ton esprit. Alléluia. Loué et remercié et honneur te soit apporté. Accorde-nous ta grâce. Que tu puisses nous délivrer intérieurement et nous rendre heureux et libres en esprit. Ton peuple d'Israël a dû oublier les 40 ans passés. Un nouveau jour. Un nouveau temps était arrivé. Une nouvelle époque, oh mon Dieu, que nous puissions oublier ce qui est derrière nous et expérimenter un nouveau jour. Un nouveau jour a commencé, une nouvelle époque a commencé. Et je te remercie et je te loue. Je loue ton merveilleux nom. Ton peuple de l'Alliance est rassemblé pour renouveler l'Alliance. Je te remercie pour cela. Et je te loue. Toutes les paroles de cette alliance doivent être accomplies. Doivent s'accomplir. Alléluia. Dans le peuple de l'Alliance. Honneur et gloire te soient apportés éternellement. Alléluia. Amen. 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 Nous nous asseyons. Je ne sais pas si tous vous avez bien écouté la parole d'introduction. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Et vous savez, mon don d'observation est parfois prouvé juste. J'espère que cette fois-ci, c'est devenu seulement une hésitation. Le frère Schmitt nous a lu que dans Néhémie 8, au verset 6, le peuple qui s'était rassemblé, qui écoutait la parole de Dieu, qu'après chaque passage, quand quelque chose arrivait, qui touchait leur cœur, une pensée qui était apporté, il répondait en levant les mains, Amen, Amen. La même chose arrive maintenant. Et je vais vous dire, vous ne dites pas Amen à celui que je tiens devant. Vous le savez tous. On n'a pas besoin de vous le dire. Néhémie 8, verset 6. Si quelqu'un dit Amen, c'est à Dieu et à sa parole. Et là, on peut dire toujours Amen. J'avais l'impression que le Amen, même à la fin de la réunion, vient. Alors, on n'a même pas besoin cet après-midi de venir se réunir. Alors, on peut tout de suite dire, c'est la dernière réunion pour ce week-end. Mais bien aimé, vous savez que nous donnons tout, nous nous donnons entièrement. Mais nous voulons aussi que tous les autres vraiment comprennent que de tout leur cœur, ils ont à suivre. Il n'y a pas de marche solitaire. Pourquoi est-ce que l'ordre, c'est de rassembler le peuple de Dieu? Si je pouvais atteindre le but seul, et si vous pouviez atteindre le but, vous pouviez pas besoin de venir ici et puis aller pêcher à la chasse ou bien à la pêche. Dieu rassemble son peuple maintenant. Il s'agit de rassembler, d'être rassemblé. Et il veut notre Amen dans ton cœur et dans mon cœur à sa parole. Et si sa parole est adressée à nous et que les pensées précieuses de sa volonté sont révélées dans la prédication, alors vous pouvez dire Amen à cela. Combien disent Amen dans leur cœur? Ne montrez pas vos mains, mais je crois que c'est le cas. Vous dites le Amen comme ça en vous. Bon, c'est bien aussi. Dieu voit le cœur et en temps même, il sait ce qu'on pense. Mais que pensez-vous? Combien c'est pour un... Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour un frère ou une sœur, pour ceux qui sont à droite et à gauche, devant et derrière vous? Quand quelqu'un subitement dit Amen, peut-être que à l'un, la pensée qui, à celui qui a dit Amen, a touché. Peut-être que toi, cette pensée t'a pas été révélée. Et subitement, tu entends Amen. Alors, tu commences à remarquer, Amen. Qu'est-ce qui a été là? Pourquoi il dit Amen? Et déjà, pensons à cela. Et réjouissez-vous que quelqu'un d'autre suit et dit Amen. Suivez et a dit Amen. Nous voulons suivre, ne pas dormir. Je pense à Frère Branham qui a donné cette histoire d'un homme qui avait crié Amen dans une certaine réunion. Et cet homme, les gens ont appelé le diacre, les diacres, et ils ont dit, faites-le sortir. Et à cela, l'homme de Dieu a dit, Frère Branham, mais vous pouvez aussi me faire sortir. Si j'entends pas d'amen, vous pouvez aussi me faire sortir dans une réunion. C'est ainsi que est la chose. Alors, un accord de tout son cœur à Dieu et à sa parole. Ou bien alors, vous n'avez pas assez d'estime de ce que Dieu, dans ce temps, nous a rassemblés sous sa parole. Sous le coup d'abord, il parle avec nous. Je ne crois pas. Je m'excuse pour cette petite remarque. Mais ça ne doit pas être une correction, mais juste une contestation. Une exhortation. Nous voulons encore lire, chanter un cantique. Personne ne sera confus qui met sa confiance en Dieu. C'est impossible. Nous voulons le chanter de tout notre cœur. De tout notre cœur. Dans la foi. Personne ne sera confus qui met sa confiance dans le Seigneur. Devrait être le premier. Non. C'est impossible. Avant que le ciel s'écroule, jamais ta parole me décevra. Tu as dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve ce que Dieu lui a promis. Celui qui frappe, il sera ouvert. Sans doute, il lui sera ouvert. Alors je veux oser. Seigneur, à ton ordre, t'apporter toutes mes difficultés.